Pourquoi, frères et sœurs, l'homme de cet évangile est reparti tout triste avec son visage sombre? Pourquoi? Parce que cet homme n'est pas entré dans l'action de grâce. Et pourtant, tout semblait bien aligné pour lui. Il rencontre Jésus le Seigneur, il l'interpelle. Jésus le regarde avec amour. Et de Jésus est reçu cet appel admirable. Tu as dans ta vie fait tout cela. Eh bien, à présent, une seule chose te suffit. Va, vends ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Mais voilà, et je vous avoue qu'à chaque fois que je reprends cet évangile, cela provoque ma surprise. L'homme devint sombre, nous dit Marc, et il s'en alla triste, car il avait de grands biens. Car il avait de grands biens. Un des problèmes semble venir, n'est-ce pas, d'une gestion inopportune de ces grands biens qu'il avait. Autrement dit, une attitude du cœur qui empêche notre homme d'entrer dans l'action de grâce. Entrer dans l'action de grâce. Et nous, frères et sœurs, entrerons-nous dans l'action de grâce? L'Église elle-même saura-t-elle encore faire monter l'action de grâce? En toutes circonstances, soyez dans l'action de grâce, dit la parole de Dieu énergique. En toutes circonstances, l'action de grâce n'est pas dépendante des circonstances. Au contraire, ce sont les circonstances qui dépendent de l'action de grâce. Renversement de logique, conversion. Entrerons-nous, frères et sœurs, dans l'action de grâce? L'Église saura-t-elle encore faire monter l'action de grâce? Priez sans cesse, en toutes circonstances, soyez dans l'action de grâce, c'est là la volonté de Dieu sur vous. Parole exigeante. Action de grâce, au premier regard, cela ne semble pas toujours évident, peut-être. Et pourtant, la parole aux Thessaloniciens insiste. Soyez dans l'action de grâce, c'est là la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ. Et, elle continue, n'éteignez pas l'esprit. Laissez fleurir ces fruits de l'esprit. Et soyez vigilants dans le discernement. Ce qui est bon, retenez-le. Ce qui est mal, gardez-vous-en. Repentez-vous-en. L'action de grâce, donc, requiert ce regard que, justement, ce regard qui a la couleur du regard de Jésus dans l'Évangile sur cet homme. Jésus posa sur lui son regard. Imaginez ce regard qui transperce l'homme, qui le restitue à sa vérité. Il le restitue dans un amour transformateur. Il l'aima, dit Marc. Dans ce regard, Jésus, dans l'Évangile, voit l'aujourd'hui de cet homme, sa circonstance. Mais il le voit aussi dans la beauté plus profonde encore de son être, de son histoire, dont silencieusement Jésus fait, en action de grâce et en vérité, mémoire. Le regard, la mémoire. Pour rentrer dans l'action de grâce, n'est-ce pas, frères et sœurs, la faculté de la mémoire est requise. Une mémoire dans ce regard lumineux de Jésus, faire mémoire dans la lumière de ce regard pascal, de ce regard qui nous appelle à rendre grâce. En tournant le regard sur notre mémoire, En tournant le regard sur l'année écoulée, pourtant nous pourrions dire au Seigneur, mais voilà qui est bien triste quand même. Nous avons perdu des choses qui nous semblaient, comme à l'homme, des grands biens. Nous avons perdu, est-il besoin d'en faire la liste, une insouciance par rapport à certains virus, certaines de nos libertés ont dû être aménagées, mais plus encore, nous avons perdu des amis du fait de la maladie, ou encore nous avons été mis à distance, douloureusement pour certains. Mais pourtant, dans ces circonstances, Jésus nous regarde et il nous aime, il nous relève. Comme nous le disait la première lecture, il nous apprend la sagesse du vrai discernement. Et le psaume, quant à lui, de nous rappeler avec humilité, apprends-nous, Seigneur, la vraie mesure de nos jours. Fais-nous savoir comment compter la richesse de ces jours à nous par toi donnés, que nous venions de cœur à la sagesse. Oui, certes, nous avons perdu, et peut-être beaucoup, cette année. Mais n'est-ce pas pour, espérons-le, nous recentrer sur des essentiels et pour cela, à nouveau frais, rendre grâce à Dieu. Mais encore, frères et sœurs, tournant le regard sur l'actualité de l'Église, la tristesse monte dans nos cœurs et la honte sur notre visage, sans doute aussi. Est-il là encore nécessaire de le rappeler, mais pourtant ces rapports sur les abus dans l'Église, ici à Montréal, en France également, écho aussi de maltraitance d'enfants autochtones, où il y a pu avoir compromission de membres de l'Église, de certains membres de l'Église, et plus encore manque d'écoute de victimes, jugements péremptoires. Oui, en effet, l'Église est mise à nu, mais n'est-ce pas pour plus de vérité ? L'Église est mise à nu, mais n'est-ce pas pour la rappeler à ce regard que Jésus pose sur le monde et que nous-mêmes nous sommes appelés à poser sur le monde ? Regard non pas de jugement, mais de compassion, n'avons-nous pas parfois, en tant qu'institution, oublié ce regard? Et aujourd'hui, l'Église, en tant qu'institution, oui, vit certes des pertes, mais combien plus les pertes ont été douloureuses pour ceux qui ont été victimes. L'Église perd, oui, de sa superbe, de son image, de sa réputation. Mais n'y a-t-il pas ici aussi, j'ose le demander, matière à dire merci ? Merci pour un chemin de plus de vérité, pour un chemin d'humilité, pour reprendre derrière Jésus, viens et suis-moi, le chemin de la croix. La parole de Dieu, plus coupante qu'une épée à deux tranchants, mettant à nu toute chose sous le regard du Seigneur, nous met sur cette piste, n'est-ce pas ? Quand dans le psaume elle nous dit « Prends en pitié tes serviteurs, les jours du châtiment, les jours de la douleur nous seront rendus ensuite en joie. » C'est une joie pascale, oui. Une joie des choses restituées à leur vérité dans l'humilité, conversion, discernement, chemin de repentance, pour l'action de grâce, en vue du royaume, en vue de cette lumière éternelle. La vraie joie, naît de l'épreuve, tout comme l'allégresse de Pâques a jailli de la croix, nous rappelle notre livre de vie. Il n'y a pas de joie profonde sans ascèse, sans participation active à la croix de Jésus, lui que nous suivons. Dans l'Évangile, l'homme qui est là, n'est-ce pas cette ascèse, ce dépouillement, cette mise à nu qu'il a refusé, et pourtant il voyait Jésus face à face. Autrement dit, n'est-ce pas l'abandon de ses richesses, d'une certaine réputation confortable qu'il ne voulait pas laisser? Il ne voulait pas se reconnaître peut-être mendiant devant Dieu. Mais s'il refuse cela, cet homme, il refuse aussi la joie du trésor céleste qui gratuitement, gracieusement lui est proposé. Alors l'Église a une actualité, effectivement, avec ses douleurs. Mais il s'agit d'avoir un regard qui sait voir aussi les lumières. Elle entre cette fin de semaine de l'action de grâce, ici, elle entre en tant qu'Église universelle dans une démarche synodale. Saura-t-elle vivre ce chemin synodal comme un chemin de Pâques, de vivre à nouveau frais cet appel « Va, Église, vends tout ce que tu as pour le distribuer aux plus pauvres, aux plus fragiles, vulnérables, et viens, Jésus, encore une fois, suis-moi. Viens et suis mon chemin de Pâques. Rencontrer, écouter, discerner, tel est ce chemin de Pâques, ce chemin synodal. Rencontrer la vie, écouter les douleurs et les joies de cette vie, discerner les chemins de conversion et de résurrection. Ceci pour entrer plus avant dans l'action de grâce. L'action de grâce par excellence pour le chrétien, c'est l'Eucharistie, là où on ne distingue à regard humain que tristesse et visage sombre d'une mort sur la croix. L'amour rédempteur du Sauveur nous donne de convertir nos yeux à la lumière divine. La résurrection jaillit du tombeau. Entrons, frères et sœurs, par nos joies et nos peines, dans cette Eucharistie, entrons dans l'action de grâce. Amen.